on that ass, pass on that ass. Fend me quick, girl, I need my glass. Fend me off, my wrist goes kick. Dimples on my hips, stretch marks on my tits. Drinking my water, minding my biz. Monday I'm overrated, Tuesday on my dick.
On rentre avec fracas dans la rencontre avec Julia Pagé, Rémi Villemur. C'est qui ici le ou la plus grande fan de Beyoncé? Ici, en levant la main verbalement pour que tout le monde nous entende en audio.
Moi, ma main est levée verbalement jusqu'au ciel. Je suis comme la plus grande fan de Beyoncé sur la planète Terre.
Rémi, est-ce que tu dis mieux?
Non. J'aime bien la pop du début des années 2000, sauf que Beyoncé, malheureusement, occupe pas une place très chère dans mon répertoire.
Ce qu'on entendait il y a quelques instants, c'est la chanson Heated, qui est tirée de Renaissance, qui est l'album le plus récent de Beyoncé. Et dans l'extrait qu'on entendait tantôt, on entendait les paroles Spazzin' on that ass, spaz on that ass. Donc des paroles que je ne traduirai pas. Je pense que tout le monde va les comprendre. Mais qui ont fait réagir beaucoup et qui vont même forcer Beyoncé à modifier ces paroles-là dans cette chanson, parce que spaz est un terme qui renvoie, entre autres, au terme médical de l'état d'une personne qui est spasmodique, qui souffre donc de spasmes musculaires sévères. Et donc, pour éviter d'aller parler comme ça des minorités handicapées qui subissent ce préjudice physique-là, on va changer les paroles. Julia, tu penses quoi, toi, de cette modification-là, surtout du tollé qui est survenu quelques jours seulement là, après le release, si on veut, de cette chanson-là?
Ben, moi, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est vraiment super ce qui s'est passé avec Beyoncé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme « spaz » est très utilisé chez les Afro-Américains et il a perdu un peu sa connotation dans cette communauté-là. Mais en Grande-Bretagne, le terme est beaucoup, beaucoup plus péjoratif. Et c'est ce que Beyoncé n'avait pas anticipé. Elle en a pris conscience, elle a pris action en retirant le mot de sa chanson, et c'est tout. Alors, tous ceux qui ont martelé qu'on ne pouvait plus rien dire, qu'au moindre faux pas, notre vie pouvait être ruinée, ben, ils avaient tort. Quand on est sincère et empathique, quand on prend action, tout se passe à merveille. Et il y a pas mal de gens qui auraient pu s'éviter pas mal de troubles si, à la place de réagir à ce genre de choses impulsivement avec ego, ils avaient pris le temps d'écouter avec humilité et intelligence, et de prendre action. Donc, je pense que c'est un super exemple de la façon dont on devrait agir quand ce genre de choses survient. Puis, il y a plein de termes péjoratifs dans nos langues. Et à mon sens, toute tentative de réduire leur portée ou leur utilisation est louable. Et je vois pas vraiment comment on pourrait faire l'argument contraire. Peut-être que Rémi va tenter sa chance. J'ai hâte de voir.
Bon, on va le laisser tenter sa chance. Mais là, je comprends. Je t'avoue, moi, je savais pas non plus que spaz, c'est un terme péjoratif au Royaume-Uni. Tu vois, c'est toi qui me l'apprends en ce moment. Rémi, toi, ta réplique à tout ça?
Ben, en fait, je vois pas en quoi ce qui s'est passé est la preuve que quand on ouvre le dialogue, tout se passe bien. Parce que si Beyoncé avait pas décidé de reculer, je me demande ce qui se serait passé. Et deuxièmement, s'il y a bien des gens qui ont réagi avec impulsivité, c'est bien les gens, et avec égoïsme, c'est bien les gens qui ont demandé de changer les paroles tout à fait modestement parce qu'ils ont une condition médicale donnée. Donc, c'est pas les gens qui ont entraîné un tollé parce qu'ils trouvaient ça fou que la demande se fasse. C'est les gens qui ont demandé que la demande se fasse. Moi, en généralement, dans des genres de situations comme ça, quand c'est de la littérature, par exemple, je suis au premier rang pour défendre. Mais tu sais, on parle d'une chanson de pop un peu insignifiante. Là, je l'ai écoutée. Là, tu sais, Beyoncé n'a jamais été vraiment reconnue pour les paroles de ses chansons. Là, c'est quelqu'un qui a des instrumentales entraînantes. Donc, tu sais, ça m'affecte pas beaucoup. Par contre, je trouve ça toujours dommage que les artistes capitulent. Les Rolling Stones, en 2021, avaient retiré Brown Sugar de leur répertoire parce que c'était une chanson qui dénonçait l'esclavage, soit dit en passant, et il n'y avait pas suffisamment de gens intelligents pour le remarquer. Donc, les Rolling Stones, qui étaient très divisés à l'époque, il y avait Mick Jagger, qui est un peu plus woke, lui, il voulait pas du tout le problème, puis Keith Richards, lui, s'était accroché à l'idée de la garder, mais bon, il était minoritaire dans le groupe. Donc, je suis déçu que les artistes capitulent, mais en même temps, je sais que l'intimidation qu'ils subissent est complètement folle. Aujourd'hui, tu peux tout perdre si tu résistes à des demandes de la sorte. Ça peut débouler très vite. Les campagnes de salissage et de censure peuvent être cruelles. Et les artistes le savent. Mais heureusement, il y a des gens qui résistent encore. Il y a Snoop Dogg qui nous écoute probablement en ce moment.
Oui, oui.
Ouais. Snoop Dogg s'était fait demander il y a 4 ans s'il regrettait des paroles de ses chansons, puis il avait répondu « Hell no ». À un moment donné, c'est de la musique, là, Carlina.
C'est de la musique. En même temps, on s'est assez demandé si Beyoncé vraiment réagit soit par peur de subir une campagne comme ça assez longue sur elle, ou si c'est vraiment parce que c'est un enjeu qui l'a préoccupé. Quoi qu'il en soit, c'est fait, puis c'est sûr que ça évite quand même là une espèce d'énorme tollé, surtout que c'est pas la chanson complète qui est retirée, c'est juste un morceau là qu'on va refaire et enregistrer. Sans conséquence, mais c'est vrai que ça, c'est un autre exemple quand même là, de paroles forcées de modifier après un petit tollé populaire. Grosse question ce matin, on s'excuse, il est juste mardi, on le sait, les gens sont en train de prendre leur café en nous écoutant. On salue Snoop Dogg encore une fois, merci Rémi. Est-ce que on devrait craindre en ce moment, c'est une grosse question que je vous pose, est-ce qu'on devrait craindre le conflit nucléaire? Parce que oui, là, c'est assez gros la question que je pose, mais en ce moment, en Russie, dans les émissions de, disons, étatiques, là, on va le dire comme ça, là, des émissions de propagande, on parle beaucoup, de plus en plus, d'utiliser l'arme nucléaire. On dirait qu'on prépare la population à cette espèce d'éventualité-là. Julia, toi, est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit?
Oui et non. Bon, donc, la question nucléaire, c'est pas ma spécialité, mais quand on étudie les temps politiques, c'est vraiment un incontournable. Puis en relation internationale, quand on parle de guerre nucléaire, on dit que c'est la seule guerre qui n'a pas de gagnant, ça mérite d'être clair. Et ce que ça explique finalement, c'est que l'arme nucléaire... En fait, c'est un peu difficile à croire, mais l'arme nucléaire est plutôt une arme de défense. C'est plutôt une arme stratégique et pas vraiment une arme offensive. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'est pas vraiment faite pour être utilisée. Tout le monde sait que les conséquences seraient beaucoup trop extrêmes. Alors, on se munit de l'arme nucléaire pour dissuader les autres de l'utiliser. En fait, pour être plus précise, les conventions en relations internationales veulent que... C'est pas vraiment qu'on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire, mais c'est qu'on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire en premier. On peut seulement l'utiliser pour répondre à une attaque. Donc, en gros, personne ne l'utilise. Mais la crainte en ce moment, c'est que la Russie soit prête à rompre ce pacte. On sait que Poutine a déjà fait... allusion au fait qu'il était prêt à mourir en martyr pour ses revendications. Donc, il brandit l'arme nucléaire parfois de façon subtile, parfois de façon pas subtile du tout. Et il nous met face à des solutions qui sont vraiment pas idéales. Parce que d'un côté, on peut complètement éviter la menace. C'est facile. On fait ce que la Russie demande. Mais c'est quoi la limite? Et l'autre solution, c'est de ne pas entrer dans le jeu de la Russie, de durcir le ton, de ne pas plier aux menaces. Mais là, on aurait raison de craindre une escalade des tensions qui pourrait pousser la Russie à aller de l'avant avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Tout ça est évidemment beaucoup plus nuancé, beaucoup plus... Il y a aussi des armes nucléaires à plus petite portée, mais bon, l'escalade serait la même. Et tout ça nous prouve qu'il n'y a jamais de solution parfaite et que l'arme nucléaire complique vraiment les choses.
Toi, tu le sais, là, Rémi, toi qui t'intéresses beaucoup à l'histoire, tu le sais qu'on est déjà passé là, extrêmement proche hein, de ce qu'on a peut appeler l'Holocauste nucléaire, là, sachant qu'à un certain moment dans la guerre froide, là, il y a un sous-marin russe qui a failli appuyer sur le bouton rouge pour envoyer une salve. Toi, est-ce que ça t'inquiète?
Ben oui, ça m'inquiète. Je pense qu'on devrait tous être inquiets. Puis je pense d'ailleurs que c'est cette espèce d'inquiétude-là qui fait en sorte qu'on vit... au jour le jour, qu'on vit dans l'urgence. Moi, je suis assez fan des théories philosophiques autour de l'enjeu des guerres nucléaires. Je pense qu'on est pressé de vivre parce qu'on sait inconsciemment que tout peut se terminer rapidement. Mais il faut s'intéresser au contexte là, historique justement qui nous a mené à ça. Là, parce que depuis la chute du mur à la fin des années 80, il y a un monde unipolaire. C'est-à-dire que les États-Unis dominent le monde. C'est incontestable. Et il y a des superpuissances comme la Chine et la Russie qui sont des puissances millénaires qui, par orgueil, peut-être, on peut le dire comme ça, ne tolèrent pas ça. Et en fait, à partir de la fin des années 80, là, on est entré dans une ère de délinquance. Là. Toutes les organisations d'après-guerre comme l'ONU se sont mises à être fonctionnelles. Personne n'écoute le droit international, personne n'obéit au droit international. Hein. Les États-Unis ont envahi l'Irak sans le support de l'ONU en 2003. Puis il y a la mondialisation aussi, à mon avis, il faut le rappeler, la mondialisation qui rend les États dépendants les uns des autres, puis les États ennemis, parfois dépendants les uns des autres. On regarde ce qui se passe avec le gaz russe en ce moment. L'Allemagne dépend du gaz russe, alors que l'Allemagne est beaucoup plus alliée à l'Ouest qu'à l'Est. Là. L'Allemagne est membre de l'OTAN. Donc ça fait en sorte que on se rapproche d'un conflit international. On est capable de faire des guerres pour le pétrole, ça s'est déjà fait. Moi, je pense que la solution, c'est de revenir à un état du monde qui est multipolaire, pas bipolaire, parce qu'on a vu que ça marchait pas non plus quand c'était l'URSS, États-Unis. Donc, un monde où il y a plus de sphères d'influence. Par exemple, les États-Unis, la Chine, l'Inde éventuellement. Puis, il faut aussi que les États-nations tournent le dos à la mondialisation. Là, je fais une espèce de cours de sciences politiques, là, mais c'est important de comprendre que quand les États dépendent les uns des autres, bien, quand il y a un problème comme un problème d'approvisionnement en gaz, tout peut éclater rapidement. Puis c'est important aussi de revenir à des sphères d'influence. Un monde qui est juste gouverné par les États-Unis, ça nous mène à ça. Parce que l'état de nature, c'est on a besoin de sécurité, on a besoin de compétitionner, puis on voit ce que ça donne.
Tu vois, je pensais pas que tu t'en allais de ce côté-là quand tu parlais de la philosophie autour des armes nucléaires, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, le point que tu apportes. On dirait que je suis toujours fasciné, puis c'est un sujet sur lequel je vais vouloir qu'on revienne. Je suis toujours fasciné de savoir que l'être humain, là, on n'est pas capable encore de trouver toutes les solutions au changement climatique. On n'est pas capable de régler toutes sortes de mystères scientifiques, mais on a été capable de créer des armes tellement puissantes. Notre volonté de s'entretuer entre nous est tellement forte qu'on a créé des armes dont on ne peut jamais se servir sous peine de risquer d'annihiler notre race et notre planète au grand complet. Mais il y a quelque chose que je trouve suprêmement ironique là-dedans, puis ça m'a toujours fasciné. Sujet sur lequel nous promettrons de revenir. Julia Pagé, Rémi Villemur, merci pour vos lumières. Content de vous avoir retrouvé ce matin. On se retrouve demain.